Une armée de mensonges. Philippe Blaise veut rétablir la vérité sur les raisons du 13 mai. Le premier vice-président de la province sud était l'invité du magazine Transparence vendredi. Le trafic aérien à l'international est encore perturbé ce week-end. Un avion d'Air Calin est en panne depuis vendredi soir. Plusieurs rendez-vous à Nouméa ce dimanche, le vide-grenier du centre-ville, le Tropical Market au Quai Ferry et le salon floralier jardinage à Nouville. L'actualité en métropole, quatrième week-end de rassemblement des opposants de l'autoroute A69 dans le sud-ouest, 1500 gendarmes sont mobilisés. En Algérie, Boualem Sansal n'a pas bénéficié de grâce présidentielle, tandis que plusieurs voix s'élèvent, l'exécutif, lui, reste muet. Bonjour et bienvenue dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une, encore ce dimanche, les négociations sur l'avenir institutionnel qui se poursuivent à l'hôtel Hilton de Bougival en région parisienne. Les délégations calédoniennes sont rassemblées depuis mercredi à huis clos pour le sommet sur la Nouvelle-Calédonie. Un rendez-vous qui continue donc tout le week-end, au moins sans échéance prédéterminée. Pour le moment, aucune délégation n'a quitté la table des discussions. Actualité institutionnelle, toujours, Philippe Blaise dénonce une armée de mensonges. Le premier vice-président de la province sud et membre du groupe loyaliste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Et face à cette armée de mensonges qu'il dénonce, Philippe Blaise veut rétablir plusieurs vérités. Et d'abord sur les raisons du 13 mai. Alors que certains veulent faire croire que la cause a été un malaise social, il faut rétablir la vérité sur ce qui s'est passé, déclare Philippe Blaise.
Premier mensonge, il faut vraiment que les Calédoniens fassent savoir en métropole, auprès de leurs amis, auprès des gens, ce qui s'est passé le 13 mai. On a été victime d'une tentative de coup d'État par des gens qui se sont organisés pour obtenir par la violence ce qu'ils n'ont pas obtenu par la démocratie. Et vous savez, ils n'ont pas arrêté parce qu'ils l'ont décidé. Ils n'ont pas arrêté parce qu'ils ont estimé que c'est allé assez loin. S'ils avaient pu, ils seraient allés beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Pourquoi ils se sont arrêtés? Pour deux raisons. Parce que les Calédoniens ont fait des barrages pour protéger les quartiers et pour les empêcher de brûler nos maisons. Donc moi, je salue cette réaction populaire parce que c'est ça qui a sauvé Nouméa, c'est ça qui a sauvé beaucoup de quartiers. Ça a donné le temps à l'État de faire venir les renforts. Et lorsque les renforts sont arrivés au bout d'une semaine et demie, deux semaines, avec le GIGN, la gendarmerie, les renforts de police nationale, l'État a repris la main. Il a restauré l'ordre public, ça a été très long. Donc ça s'est arrêté pas parce que la CSAT l'a voulu, ça s'est arrêté parce qu'ils ont été arrêtés.
Autre mensonge contre lequel s'élève le premier vice-président de la province sud, il met en cause certains cercles parisiens, LFI ou une certaine presse qui prétendent qu'en Calédonie, la France serait un État colonialiste.
Nous, on est calédoniens depuis des générations. On est nés dans ce pays, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont nés dans ce pays. On sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce pays, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Dans ce pays, il n'y a pas une minorité de privilégiés blancs qui opprime une majorité de Noirs. La réalité, c'est que ce pays, c'est un pays multiracial depuis toujours. La colonisation française a toujours été une colonisation de métissage. Nous avons tous, dans nos familles, des gens qui sont issus de ce grand mélange de la France d'outre-mer, qui est pour nous une fierté, c'est notre identité, c'est notre âme, c'est quelque chose qui est beau, qui est noble, et qui doit être défendu, parce que nous ne pouvons pas accepter que des gens nous insultent et travestissent la réalité humaine de la Calédonie.
En Calédonie, rappelle Philippe Blaise, il y a deux légitimités qui ont été reconnues par l'accord de Nouméa et il rebondit sur la phrase du préambule de l'accord qui affirme que ce territoire n'était pas vide.
Mais on a oublié de dire une chose, c'est qu'il était vide de routes, il était vide d'hôpitaux, il était vide d'écoles, il était vide d'entreprises, il était vide de tout ce qui fait que la Calédonie d'aujourd'hui existe. Et tous les non-Kanaks, ceux qui sont venus dans ce pays au fil de l'histoire, par vagues successives, qui ont planté leurs racines dans ce pays, qui se sont mélangés avec la population mélanésienne, qui sont mélangés entre eux, tous ces gens qui sont des Calédoniens avant d'être des Français, qui sont des gens d'ici, ce sont ces gens-là qui ont construit ce pays. Ce sont ces gens-là qui font que la Calédonie est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça le combat qu'on doit mener, c'est arrêter de faire comme si nous n'existons pas. Il est inadmissible que le FLNKS puisse se permettre de dire « nous ne voulons parler qu'avec l'État ». Mais pour qui vous vous prenez ?
Et cette méconnaissance de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'une des erreurs de Manuel Valls, affirme Philippe Blaise.
Manuel Valls, par exemple, lui, il a eu tout faux. Il s'est planté parce qu'il est rentré dans ça. C'est-à-dire qu'il est venu en Calédonie en faisant semblant d'ignorer totalement ce qui s'était passé avec l'accord de Nouméa, c'est-à-dire le préambule, les deux légitimités, en ignorant qu'il y a eu trois référendums où une majorité de Calédoniens, sur un corps électoral restreint, ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'indépendance et qu'ils voulaient rester français. Et en mettant en avant le peuple premier, ce qui a suscité une réaction tout à fait légitime de nos élus qui ont dit « mais si vous arrivez comme ça, en faisant une distinction entre les uns et les autres, vous êtes dans le parti pris ». Manuel Valls, il a fini par tomber le masque et on a vu qu'en fait, il est venu avec un parti pris qui était de nous amener à l'indépendance. Je me réjouis qu'il ait échoué. Je me réjouis que le président de la République ait repris la main parce que quelque part, c'est une forme de désaveu et il a relancé les discussions en remettant la balle au centre.
Philippe Blaise se livre aussi à un constat de l'échec du rééquilibrage quand on voit la situation du Nord et des îles et il déplore par ailleurs l'effondrement de l'économie de la Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi fragile d'un point de vue économique. Et cette situation est exacerbée par les conséquences du 13 mai 2024. On a eu très récemment le compte administratif 2024 de la Nouvelle-Calédonie qui montre l'effondrement des recettes fiscales parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui ne payent plus d'impôts, des chefs d'entreprise sont partis, des professions libérales. Ce sont tous ces gens qui sont partis, ces milliers de personnes sont partis, c'est des gens, ils faisaient partie des 92% de gens qui payaient des impôts et qui servent à payer tout le reste, la continuité territoriale, le RUAM, le rééquilibrage, tous les services publics. Donc ça a amplifié la situation et aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du système des 30 ans de rééquilibrage et d'assistanat qu'on a mis en Calédonie. C'est-à-dire que même s'il y a une relance économique, ce que nous souhaitons, il va falloir remettre à plat tout ce que nous avons mis en place depuis 30 ans. Nous ne pouvons plus continuer à aider aussi généreusement des gens qui ne travaillent pas, ce n'est plus possible.
Dans ce contexte, relancer l'économie, c'est une cause d'intérêt général, affirme le premier vice-président de la province sud, qui rappelle que c'est l'État qui a permis que la Calédonie ne soit pas à terre. Pour lui, il faut d'abord parler des sujets d'intérêt général plutôt que des questions statutaires, et il s'adresse aux familles indépendantistes.
Je voudrais poser une question à toutes ces familles indépendantistes qui aujourd'hui se retrouvent, le papa a perdu le travail, il n'y a plus à manger sur la table. Est-ce que vous êtes content du bilan de la CCAT un an après ? Est-ce que c'est ce pourquoi vous êtes battu ? Est-ce que vous êtes battu pour ça ? Moi, je crois que non. Et est-ce que vous êtes conscient que ceux qui vous ont dit d'aller brûler, d'aller tout casser, eux, la paye tombe tous les mois parce qu'ils sont dans la fonction publique. Ils sont élus, ils sont collaborateurs, ils continuent à voyager, ils continuent à aller se pavaner à Fidji, partout. Mais vous, ils vous ont fait faire des choses qui vous ont mis dans la misère. Le problème, il est là. Ce n'est pas un problème entre indépendantistes, c'est le problème entre des gens responsables qui font des choses pour que les familles s'en sortent et ceux qui sont prêts à sacrifier la vie des gens et leur bien-être pour le pouvoir. Ben nous, les loyalistes, on se bat pour le bien-être des gens. Ça fait 40 ans qu'on se bat pour rester français, pas parce qu'on est en train de défendre des privilèges, mais parce qu'on sait que rester français, c'est la meilleure garantie que dans ce pays, on puisse continuer à avoir les standards de protection sociale que des pays comme la France, les pays d'Europe ont mis en place et qui sont une référence dans le monde. L'éducation gratuite, les retraites, l'accès aux soins, l'aide médicale, le logement. C'est ça la dignité des gens. Si être indépendant, ça veut dire vivre comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme dans des pays du tiers-monde, ça, c'est pas la dignité.
Une interview de Philippe Blaise qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la visionner ou la réécouter en podcast sur notre site internet.
Passons à l'actualité aérienne. Le trafic à l'international est encore perturbé ce week-end. Deux problèmes distincts qui se posent pour la compagnie Air Calédonie International, Michael.
Un avion d'Air Calin est en panne. Une panne technique survenue sur le vol SB500 nommé à Bangkok-Paris, prévu dans la nuit de vendredi à samedi. La compagnie aérienne explique que la pièce nécessaire à la réparation est en cours d'acheminement depuis l'Europe. Elle est actuellement en transit à Singapour via un vol d'Air Calin et elle est attendue pour demain à Tontouta. Les réparations démarreront des réceptions. Un vol de remplacement au départ de Nouméa est programmé pour demain soir, sous réserve de la fin des travaux. Vol qui desservira Singapour, avec des correspondances vers les destinations finales des passagers. Les passagers joignables, précise la direction, ont été informés de ces modifications. Une prise en charge a été mise en place avec hébergement ou remboursement des frais engagés. Air Calin explique également sur son site qu'en raison cette fois des conditions météorologiques défavorables de ces derniers jours, la rotation Nouméa-Port-Vila-Nouméa du 4 juillet, opérée par Air Calédonie, a été annulée. Une rotation spéciale est prévue mardi. Départ de Tontouta à destination de Port-Vila à 15h, puis départ de Port-Vila à destination de Tontouta à 17h30.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Et comme chaque premier dimanche du mois, le vide-grenier de Nouméa s'installe au cœur du centre-ville, de la place de la Paix jusqu'au kiosque à musique. La matinée a attiré une belle affluence. Une centaine de stands étaient installés depuis 7h avec un large choix. Vêtements, matériel, décoration ou encore jeux pour enfants. De quoi satisfaire les chineurs comme les simples curieux.
Là, on est venu visiter un peu tous les stands, regarder si on trouve du matériel de pêche, des petits vêtements avec la copine, et puis voilà quoi.
C'est une sortie du dimanche, hein. Ça fait du bien pour tout le monde, c'est avec le beau temps aussi. Et puis chiner quoi, c'est vraiment venir chercher ce que t'as pas chez toi déjà, et puis t'es à la surprise des choses que tu peux trouver pas cher quoi.
Des pulls, des jeans, des t-shirts, et moi j'ai repéré deux stands de pêche, j'attends de voir un peu si j'en trouve un troisième pour comparer, et puis voilà.
Par les temps qui courent, ça fait toujours des petites affaires à faire avec nos enfants, donc on vient regarder et en Chine quoi, on passe du temps, et puis c'est convivial, tout le monde qui est mélangé, c'est bien.
Le vide-grenier se poursuit encore quelques minutes jusqu'à 12h30 et prochain rendez-vous, déjà, ce sera le dimanche 3 août. Autre rendez-vous à Nouméa, le Tropical Market s'achève ce dimanche au Quai Ferry. Un rendez-vous qui a connu une affluence constante depuis hier, Mickaël.
Oui, c'est un retour dans un site sur mesure pour accueillir les visiteurs. Rendez-vous en bord de mer, le long de la galerie des Quai Ferry. Les artisans ont pris leur quartier hier, accompagnés d'animations en tout genre et en lien avec les boutiques, les bars et les restaurants déjà présents dans le complexe pour tenter d'attirer un plus large public. La fréquentation a été très satisfaisante selon Marion Allegro, la coordinatrice du Tropical Market.
Hier, on a vraiment eu un très beau public, un grand nombre de visiteurs qui sont venus, ben, autant pour les activités que pour les stands exposants. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Aujourd'hui, ça ne désemplit pas. En fait, on voit que le rendez-vous plaît. Ça va devenir un incontournable finalement sur les quais, puisque les gens ont une réponse positive ici. En fait, on voit autant les restaurateurs sur les quais, les commerces qu'on peut retrouver. Sur le marché, on a donc aussi des commerçants et des artisans, parce qu'on a vraiment un mix qui est assez global. Le but, c'est de pouvoir s'y retrouver, avoir des produits qui sont différents. Une gamme qui sera assez large, qui puisse convenir surtout au portefeuille et à l'envie des Calédoniens actuellement.
Le Tropical Market, organisé pour la troisième fois sur les quais Ferry, afin de redynamiser cet espace de Nouméa et d'offrir une nouvelle vitrine aux artisans du territoire.
Et puis le salon Floralie et Jardinage qui se poursuit à la Maison des Artisans jusqu'à 16h. Ce nouveau rendez-vous est un incontournable pour les passionnés de nature et de plantes. Il est organisé par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Une quarantaine d'exposants proposent encore aujourd'hui plantes, outillages et conseils personnalisés. Midi et 12 minutes, on marque une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale.
Du mardi au vendredi à 6h25 et 11h20 et le samedi à 7h45, écoutez l'édito d'Europe 1 avec le Village Automobile PK4 à Nouméa. Le Village Automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et aussi 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Il est midi 13, la suite de votre journal avec Léo Fichou.
L'actualité en métropole, quatrième week-end de mobilisation des opposants de l'autoroute A69, un rassemblement interdit par la préfecture du Tarn qui réunit actuellement 1 millier de manifestants alors que 1500 gendarmes sont toujours mobilisés. Une manifestation qui en fin de journée hier donc a dégénéré. Margot Bongrand pour Europe 1.
Oui, d'abord à 17h30 environ, 600 opposants à l'autoroute sont sortis du site privé du château de Scopon pour aller au contact des forces de l'ordre. Certains individus, majoritairement masqués, ont tenté de rejoindre le tracé de l'A69 quelques mètres plus haut. C'est là qu'étaient postées les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de pierres en direction des gendarmes. Ils ont alors répliqué par des lancers de gaz lacrymogène. Nouveaux affrontements vers 19h avec des tirs d'artifice et de mortiers vers la police et de nouvelles répliques par gaz lacrymogène. Une heure de tension avant un retour au calme. Toute tentative de débordement a bien été maîtrisée. Pour rappel, 1500 effectifs de police et gendarmes étaient déployés sur la zone, soit plus que les manifestants. Un hélicoptère et des drones surveillaient également. Pas d'interpellation pour le moment, mais plus de 250 objets pouvant servir d'armes ont été saisis lors de ce rassemblement. La situation est stabilisée, mais le dispositif de sécurité reste actif tout le week-end.
Margot Bongrand, correspondante pour Europe 1 dans le Sud-Ouest. Toujours en métropole, la saison des incendies a commencé. Dans l'Hérault, notamment, un feu a ravagé plus de 60 hectares de végétation le long de l'autoroute A9 et mobilise toujours 200 pompiers et 4 canadaires. Vendredi, l'Indre connaissait une situation exceptionnelle avec 21 feux recensés et 175 hectares de surface agricole et naturelle détruite. L'actualité à l'international en Algérie, l'absence de grâce présidentielle pour Boualem Sansal est désormais officielle. L'écrivain franco-algérien âgé de 80 ans reste donc détenu à Alger, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Alors que plusieurs voix de l'opposition s'élèvent, l'exécutif, lui, reste muet. Ni l'Élysée, ni Matignon, ni le Quai d'Orsay n'ont réagi publiquement depuis l'annonce. Alors pourquoi ce silence assourdissant ? Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pas un mot, pas une ligne sur le cas Boualem Sansal. À l'Élysée, on assure qu'aucune communication n'est prévue. Et selon les informations d'Europe 1, la consigne est claire. Tous les membres du gouvernement sont sommés de garder le silence jusqu'à nouvel ordre. Dans l'entourage du président, certains ne cachaient pas leur confiance il y a encore quelques jours. La stratégie, tout misée sur la grâce collective prononcée par Alger à l'occasion de la fête nationale. Pari perdu, Boualem Sansal n'en a pas bénéficié. Une déconvenue que l'exécutif tente désormais de rattraper en coulisses. Objectif, éviter d'aggraver une situation diplomatique déjà très tendue avec Alger. L'Élysée espère encore une libération dans les prochaines semaines, peut-être à travers une grâce individuelle décidée personnellement par le président Tebboune. En attendant, Paris continue de faire pression discrètement et préfère ne pas commenter pour ne pas compromettre une hypothétique sortie de crise. Mais ce choix du silence assumé au sommet de l'État commence à susciter malaise et incompréhension jusque dans les rangs de l'exécutif.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. En bref, au Proche-Orient, le Hamas s'est dit prêt à négocier une trêve ainsi que la libération d'otages israéliens. Le président américain Donald Trump, qui doit d'ailleurs accueillir lundi à Washington le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a estimé qu'un accord pourrait être conclu dès la semaine prochaine. Midi 17, seconde pause avant de voir toute l'actualité sportive.
Ce jeudi 10 juillet, le Nord vient à votre rencontre sur la place des Cocotiers. Artisanat local, gastronomie, marché agricole et de la mer, produits horticoles, groupes de danse et de musique, les communes du Nord vous réservent de beaux partages et des saveurs authentiques. Le jeudi du centre-ville, l'authenticité du Nord, c'est ce jeudi 10 juillet de 8h à 19h, place des Cocotiers. Infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Jusqu'au vendredi 25 juillet, gagnez un séjour à l'hôtel Le Stanley. Logez une semaine, ensuite Ylang Ylang. Petit déjeuner inclus pour deux personnes offert par l'hôtel Le Stanley. Un cadeau d'une valeur de 242 200 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 25 juillet à 14h. 371 francs le SMS. Profitez d'un endroit calme, proche de la ville, à l'hôtel Le Stanley. L'hôtel vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres et suites climatisées et tout équipées. Profitez aussi de la piscine, d'une vue imprenable sur le lagon et des petits déjeuners. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel, téléphone 23 23 23. Pour jouer, envoyez chance au 40 20. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est midi 18, la fin, le sport avec Léo Fichou.
Et à la une de l'actualité sportive, les mini-jeux du Pacifique. On continue de vous faire suivre les performances de la délégation calédonienne du côté de Palau.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et aujourd'hui, c'est jour de repos pour les athlètes. Les Cagous ont remporté hier deux nouvelles médailles à l'occasion de la sixième journée d'épreuve, Michael Juneski.
Oui, les nageurs, encore une fois, ont réussi à obtenir deux récompenses sur le relais 4 x 1250 mètres en eau libre. Clara Delunel, Camille Jarcet, Yaron Odanche et Luc Mercier ont terminé deuxième, juste derrière l'équipe de Tahiti et devant les Samoans. Et avant cela, Luc Mercier a déjà été monté sur la troisième marche du podium sur le 5000 mètres en eau libre, devancé cette fois par deux Tahitiens. On signalera également qu'en athlétisme, Jérémy Ngodrella s'est qualifié pour la finale du 400 mètres avec le troisième chrono des séries. Finale prévue demain soir sur le stade de Koror. Nos représentants sont pour le moment septième du classement des médailles avec un total de 22 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 13 en bronze. À mi-parcours, c'est un très bon bilan selon Marion Romagne, le chef de mission Jeux du Pacifique au CTOS.
Pour moi, c'est un bilan très positif parce qu'on ne s'attendait pas à faire autant de médailles, surtout en athlétisme. fédération, 3 médailles d'or, une en tennis de table, une médaille chez les handis 100 mètres. Pas mal de médailles non prévues, c'est une satisfaction. Et derrière, on a des médailles d'argent, beaucoup de médailles de bronze aussi. Donc, bilan positif pour cette première semaine. L'organisation nous a émis des contraintes d'athlètes jeunes avec des U19, des U23, des U18. Positif pour moi, tout est positif parce que les jeunes se sont bien comportés. Pas mal ont fait des médailles, ils sont très très contents. Mon souhait, c'était qu'ils reviennent des étoiles pleines les yeux. Et je pense que ça sera le cas parce que beaucoup de jeunes ont gagné des médailles et des médailles importantes pour la natation. Par exemple, ils sont hyper heureux, ces jeunes-là, et c'est plein de promesses pour l'avenir, quoi.
Et pour une équipe de seulement 31 sportifs, partis dans l'optique de préparer les grands jeux prévus à Tahiti en 2027, les performances sont largement encourageantes, même si les Tahitiens dominent largement et logiquement ces mini-jeux. On retrouve Marion Roumagne.
La concurrence, pour l'instant, on ne peut pas trop comparer notre sélection là, comment, à Palau, parce que effectivement, le Tahiti a ramené une grosse délégation avec pas mal de titulaires qu'on va retrouver à Tahiti. Nous, notre délégation est bien plus restreinte, donc la comparaison est difficile à faire. À l'heure d'aujourd'hui, on a quelques signes quand même encourageants pour notre team, la team Nouvelle-Calédonie, bien sûr, parce que le peu qu'on a vu sur le peu de discipline participative pour la Nouvelle-Calédonie, on a quand même des satisfactions, donc c'est de bon augure pour la préparation de 2027. Je vous rappelle que c'était vraiment la première des missions qu'on avait avec ces délégations-là, c'était de préparer 2027. Nos cadres à l'étranger seront de là en fort et je pense que si tout va bien, si tout se passe correctement dans la préparation, nous devrions pouvoir rivaliser avec Tahiti, si tout se passe bien.
Marion Roumagne, chef de mission Jeux du Pacifique au CTOS. Les Tahitiens qui sont donc pour le moment, on le disait, en tête du classement des médailles avec pas moins de 103 podiums, 53 médailles d'or, 32 médailles d'argent, 18 médailles de bronze. À la deuxième place, les Samoans qui totalisent un total de 59 médailles, dont 27 en or. Les Fidjiens sont troisième, 61 médailles, dont 18 en or. L'Australie est au pied du podium, suivi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Mariannes du Nord, juste devant la Calédonie. Aujourd'hui, pas d'épreuve, hein, on le disait, donc pour nos sportifs, mais à partir de demain, on mise notamment de solides espoirs sur le triathlon avec Mélanie Allier, Clémence Besson-Léo, Timothée Hérout et Mathieu Zalamacha. Ce sera la dernière ligne droite puisque ces mini-jeux du Pacifique se termineront mercredi avec la cérémonie de clôture prévue au Stade National des Palau.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Le sport sur la scène internationale avec du football, la fin ce matin des quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. C'était le premier gros test pour le Paris Saint-Germain après des premières rencontres relativement tranquilles. Le club de la capitale s'attaquait au Bayern de Munich au terme d'une rencontre longtemps indécise. Le PSG réduit à 9 est venu à bout des Allemands, score final 2-0. Christopher Filhoc pour Europe 1.
Oui, un PSG bousculé, en souffrance par moment, mais ce Paris Saint-Germain-là finit toujours par retomber sur ses pattes grâce à celui qui élève son niveau de jeu au moment des grands matchs, Désiré Doué, l'homme du doublé en finale de la Ligue des Champions, a trouvé la solution dans le dernier quart d'heure d'un match où les gardiens de but se sont largement illustrés. Le buteur parisien au micro de DAZN.
Un quart de finale, c'est toujours des matchs compliqués à jouer. C'est pour moi très très important d'aider l'équipe. Sur les derniers matchs, j'ai pas marqué. J'ai essayé d'apporter au mieux dans l'équipe à chaque fois, à chaque match. Si c'est pas par des buts, c'est par des efforts défensifs, des courses, des passes. Et aujourd'hui, j'ai marqué, j'ai aidé l'équipe. C'est aussi mon rôle d'attaquant, donc je suis très content.
Une fois l'ouverture du score inscrite, les Parisiens ont longtemps été mis en difficulté après notamment deux cartons rouges de Pacho et Hernandez. Avant que Ousmane Dembélé, qui a fait son entrée sur le terrain à la 70e minute, scelle le score en inscrivant son 34e but cette saison. Le PSG, qualifié pour les demi-finales, n'est plus qu'à deux matchs de décrocher un cinquième titre cette saison.
Et en demi-finale, les Parisiens affronteront le Real Madrid de Kylian Mbappé, le Français buteur ce matin lors de la victoire des Madrilènes, 3-2 sur Dortmund. Match prévu jeudi à 6h, heure de Nouméa. Dans l'autre demi-finale, Chelsea sera opposé au Brésilien de Fluminense. Football toujours avec le début de l'Euro féminin. L'équipe de France a lancé de la meilleure des manières sa campagne par une victoire sur les Anglaises. Le score 2-1. Prochain rendez-vous pour les Françaises, ce sera face au Pays de Galles jeudi prochain. Sur les terrains de rugby, maintenant le début de la tournée d'été des Bleus en Nouvelle-Zélande. Le 15 de France s'est incliné de justesse hier contre les All Blacks, Michael.
Les Bleus qui ont cédé de peu sur les terres des Néo-Zélandais, 31 à 27. Une équipe remaniée, on le rappelle, rajeunie car privée de nombreux cadres. Mais les Français ont donné une solide réplique à la Nouvelle-Zélande, même si les All Blacks de Cody Taylor, munis d'une arme traditionnelle pour la première fois lors du haka inaugural, ont fini par s'imposer, sans briller, avec beaucoup de maladresse pour ce premier acte. Deux nouvelles rencontres sont prévues dès le week-end prochain. Les deux équipes croiseront encore le fer à Wellington. Quelques résultats encore d'autres test-matchs du week-end. L'Angleterre s'est imposée en Argentine 35 à 12. Victoire de l'Irlande sur la Géorgie 34-5. L'Afrique du Sud a battu l'Italie 42 à 17. Et enfin, le Pays de Galles a perdu au Japon 24 à 19.
Autre événement, le début du Tour de France.
Hercalin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
C'est parti sur les routes de la Grande Boucle, l'édition 2025 qui s'est élancée de Lille.
Et le premier maillot jaune, c'est le Belge Jasper Philipsen. Il a remporté la première étape longue de 184 km au sprint devant l'Érythréen Binyam Girmay et le Norvégien Soren Warrenskjold. Une joie immense pour Philipsen qui décroche au passage sa 10e victoire en carrière sur le Tour de France.
C'est un rêve pour chaque coureur de porter ce maillot jaune. C'est une journée que je n'oublierai jamais. De ma vie, c'était vraiment une journée parfaite avec toute l'équipe. On a fait de notre mieux. Je suis vraiment fier des garçons. On a le résultat et on a ce maillot jaune. Quel rêve qui se réalise.
Et notez que le Français Anthony Turgis était dans le groupe de tête. Il a terminé 4e. Ce soir, le parcours emmènera le peloton jusqu'à Boulogne-sur-Mer pour une étape longue de 209 km à partir de 21h35 pour nous.
Place au sport mécanique, la Formule 1 avec le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est une petite surprise, Max Verstappen a décroché la pole position.
Oui, le pilote Red Bull qui a dominé les qualifications, il partira en tête ce soir sur la grille de départ. Juste derrière, on retrouvera les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris. Puis deux autres britanniques, George Russell sur Mercedes et Lewis Hamilton sur Ferrari. Charles Leclerc partira de la 6e position, Fernando Alonso 7e. On retrouve également le français Pierre Gasly qui a terminé 8e des qualifications au volant de son Alpine.
Comme on dit, impossible n'est pas franc. Mais très clairement, on s'attendait à limite se retrouver avec les deux voitures en dernière ligne. Donc on a changé quelques réglages sur la voiture avant la qualif qui sont vraiment allés dans le bon sens. Et après, je pense qu'on a tous fait vraiment un super travail de la Q1 à la Q3. Donc c'est vraiment inespéré. Je suis vraiment très content et surtout très content pour l'équipe parce que ça a été un week-end plus que difficile depuis qu'on est arrivé.
Les autres Français, Isaac Hadjar et Esteban Ocon, partiront respectivement des 12e et 14e places. Départ du Grand Prix de Grande-Bretagne ce soir à 1h du matin pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport sur le territoire, le prix de l'ECV 2025 organisé par l'école calédonienne du vélo a débuté ce matin par un contre-la-montre au Wentoro, une épreuve explosive d'un kilomètre où les coureurs s'élancent à une minute d'intervalle pour grimper la colline le plus vite possible, Michael.
Et c'est Ryan Lachny, ancien détenteur du record, qui a une nouvelle fois dominé la montée. Il s'est imposé avec un temps d'une minute 56 secondes, nouveau temps de référence, on l'écoute.
3, 2...
Allez. C'est un format qui est assez intéressant avec un chrono d'un kilomètre, ça fait à peu près entre 2 minutes et 2 minutes 20 d'effort. Du coup c'est assez sympa pour ouvrir la matinée de course. Comme je l'ai dit, un kilomètre c'est court et long à la fois, ça peut sembler très long sur le vélo mais c'est très court parce que ça fait un peu plus de 2 minutes d'effort. Du coup c'est quelque chose qu'il faut gérer. Le chrono pour moi il se décompose en deux parties. Il y a la première partie qui est très roulante où on peut s'enflammer et partir trop vite, et la dernière partie qui rappelle à l'ordre parce que c'est plus raide et c'est plus exposé au vent. Du coup ça ralentit énormément, je pense qu'il faut vraiment regarder pour la deuxième partie.
Voilà, et puis Kyrian Moutry, un jeune de 16 ans, espoir du cyclisme calédonien, participait lui aussi à ce contre-la-montre.
Bien prendre des courbes dans les virages, faire attention à la route qu'on emprunte. S'il y a des trous, éviter de se faire ralentir et être le plus régulier possible. Pas mal de vent dans le Wentoro, vent de face dans la montée, c'était un peu compliqué. Mais on s'est donné à fond et puis les jambes, ça, c'est dur. Sur mon compteur, je suis à peu près à 2 minutes 15. Il manque encore un peu de progression. Après, je suis encore un peu jeune, je suis en junior seulement. Et puis quelques années ou quelques mois d'entraînement. d'entraînement et de préparation sur cette épreuve-là, et puis ça devrait
le
faire.
Et sur le critérium mis en place ensuite autour du lycée La Pérouse, notez que la victoire est revenue à Ethan Dacremont devant Ryan Lachny, encore lui qui finit donc en tête du classement général. Et puisqu'on parlait de Kieran Moutry, notez que son frère, Kéryl Moutry, est lui en Nouvelle-Zélande pour des études, et c'est également l'occasion pour lui de se confronter au top niveau océanien. Il est engagé ce week-end sur les National Track Series, compétition de référence avec les meilleurs pistards néo-zélandais et quelques Australiens. Il a terminé deuxième des qualifications.
En natation, c'est une nouvelle aventure exceptionnelle que va vivre Ethan Dumesnil après ses très bonnes performances au championnat de France à Montpellier, qui lui ont d'ailleurs permis de se qualifier pour les mondiaux prévus à Singapour dans les prochains jours. Le nageur de l'Olympique va s'envoler pour les États-Unis. Il s'est engagé pour 4 ans avec l'Université du Tennessee au programme poursuite des études et nage au plus haut niveau. On revient sur le territoire avec du rugby. La deuxième phase ce week-end des compétitions jeunes, les moins de 16 ans et les moins de 19 ans se retrouvent au stade Philemossi-Moutoga de Rivière-Salée. Parmi les clubs concernés, le CREC, Dumbéa, le stade calédonien, Mondor, l'Olympique, le Bassin et Païta. L'occasion de faire une revue d'effectifs avant les prochaines échéances. Jean-Baptiste Talaloua est responsable de la commission jeune à la Ligue de rugby de Nouvelle-Calédonie.
C'est ça sur toutes les équipes. Et puis on a un référent technique et le staff des sélections qui sont là aussi pour détecter aussi. Il y a une journée qui aura le 19 pour approfondir cette détection, pour pouvoir tirer les meilleurs joueurs, pour pouvoir constituer la sélection calédonienne, aussi bien M16 que M19. C'est déjà bien de faire matcher déjà ces catégories, que ce soit M16 ou M19, parce qu'il y a des échéances telles que les 10 femmes pour les moins de 16, le TI tournoi international sur Wallis pour les M19 et le Griffin pour les moins de 15.
On signalera en rugby toujours que l'Olympique Nouméa a remporté vendredi soir la finale du championnat de Calédonie de rugby à 10. Victoire donc en finale contre le RC Mondor. Un coup d'œil au reste des résultats, Michael.
Oui, du football, la 7e journée de Super League, la victoire de Tiga sur Gengensport 3-0. D'Horizon Patho sur Le Mondor 5-0. Un nul entre l'AS Magenta et l'AS Cougnier, 2-2. Et le SC Nejeu a battu le CA Saint-Louis 4-0. Dans l'eau, la deuxième manche de la Coupe de Calédonie de surf à Bouraille continue. Hier, on soulignera les victoires d'Anaïs Lévesque en shortboard Ondine et en shortboard Open de Jean-Denis Yag. Et puis dans le Nord, les championnats de Calédonie de badminton en double se poursuivent. À Conéon, on signalera déjà la victoire hier en double mixte de Morken Paisio, associée à Johanna Kou, la présidente de la Ligue calédonienne.